Tim se rendit à la scierie de l'arbre 3 jours plus tard, accompagné d'un des fils de Destry, Willem les Blés, ainsi surnommé à cause de ses cheveux blonds. Tous deux furent embauchés, mais on n'aurait pas besoin de leur service avant un moment et uniquement à temps partiel, du moins pour commencer. Tim avait fait suivre les mules de son père, qui avait besoin d'exercice, et les deux garçons les montèrent pour repartir.
« Tu m'avais pourtant dit que ton beau pas ne buvait pas !» lâcha Willem comme il passait devant le saloon de Gitti, dont les volets étaient fermés et le piano muet, vu qu'il était à peine midi.
« Il boit pas ?»
répondit Tim, mais il se rappela le banquet de mariage.
« Ah bon ? Alors, le type que mon grand frère a vu rouler dans le caniveau hier soir devait être le beau-pas d'un autre orphelin, car Randy m'a dit qu'il était plein comme une outre et vomissait tout ce qu'il savait dans l'abreuvoir. »
Comme il en avait l'habitude, Willem fit claquer ses bretelles pour ponctuer cette sentence définitive.
« J'aurais dû te laisser rentrer à pied, espèce de demeurée, »
songea Tim. Cette nuit-là, sa mère le réveilla une nouvelle fois. Tim se redressa vivement sur sa couche et posa les pieds par terre, puis se figea. Kels parlait à voix basse, mais la cloison était fort mince.
« Tais-toi, femme, si tu réveilles le gamin et qu'il se pointe ici, t'auras le double du compte !»
Elle cessa de pleurer.
« C'était une erreur, ça se reproduira plus. » J'ai accompagné Mellon pour boire une bière pendant qu'il me parlait de sa nouvelle concession, mais on m'a filé un verre de Jacaro entre les doigts. Avant de m'en rendre compte, je l'avais déjà bu, et puis c'était trop tard. Ça se reproduira plus, je te dis. T'as ma parole.
Tim se rallongea et espéra qu'il disait vrai. Les yeux fixés sur le plafond invisible, il écouta un hibou qui ululait et attendit soit de se rendormir, soit de voir poindre le matin. Si l'homme se révèle être un mauvais mari, lui semblait-il, la corde est nouée plutôt que bouclée. Il pria pour que ce malheur ne soit pas échu à sa mère. Son nouvel époux ne pouvait lui être sympathique, ni encore moins cher à son cœur, mais peut-être qu'elle avait d'autres sentiments. Les femmes ne sont pas comme les hommes, on dit que leur cœur est plus grand. Tim ruminait toujours ses sombres pensées lorsque l'aube rosit le ciel et qu'il finit par s'endormir. Ce jour-là, il y avait des bleus sur les deux bras de sa mère. Apparemment, le montant du lit qu'elle partageait avec le grand Kel s'était devenu remuant. La pleine terre fit place à la terre vide, ainsi qu'il en va toujours. Tim et Willem partirent travailler à la scierie, mais seulement 3 jours par semaine. Le contremaître, un brave saille du nom de Rupert Venn, leur promit davantage de travail l'hiver prochain, à condition que la neige soit légère et la récolte abondante. Il parlait, bien entendu, des rondins de bois de fer que les bûcherons comme Kels rapportaient de la forêt. Les bleus de Nell s'effacèrent et le sourire lui revint aux lèvres. Tim le jugeait plus hésitant qu'avant, mais mieux valait cela que pas de sourire du tout. Kels attacha ses mules et partit sur la piste du bois de fer, et bien que les concessions que le grand Ross et lui exploitaient soient de première qualité, il n'avait toujours pas trouvé de nouvel équipier. Par conséquent, il rapportait moins de rondins que les autres bûcherons, mais le bois de fer était toujours recherché et on le payait un bon prix, en monnaie d'argent plutôt qu'en bons d'achat. Parfois, le plus souvent lorsqu'il empilait des planches dans l'un des grands hangars de la scierie, Tim se demandait si la vie ne serait pas plus belle si son nouveau beau-pas tombait sur un serpent ou un wervel, voire sur un wurt, ces saletés volantes qu'on appelait aussi les oiseaux bâles. C'était une de ces créatures qui avait tué le père de Bern Kels en le transperçant net d'un coup de bec. Tim chassait ses mauvaises pensées avec une grimace horrifiée, surpris de les trouver dans un coin de son cœur, un coin sombre. Son père aurait honte de lui, il en était sûr. Et peut-être était-ce vrai, car on disait que ceux qui sont entrés dans la clairière au bout du sentier connaissent tous les secrets que les vivants cachent avec soin. Au moins, l'haleine de son beau-père avait-elle cessé de sentir le graffe, et personne, ni Willem les blés, ni un autre, ne prétendait avoir vu le grand Kell se sortir du saloon de Gitti en titubant à l'heure de la fermeture.
« Il a fait une promesse et il la tient, » se dit Tim, « et le montant du lit de Mama ne bouge plus, vu qu'elle n'a plus de bleu. La vie redevient belle, c'est l'essentiel. »
Lorsqu'il rentrait à la maison à l'issue d'une journée de travail, sa mère lui avait déjà préparé son souper. Le grand Kell s'arrivait plus tard car il faisait une halte au bord du ruisseau pour laver ses mains, ses bras et son cou couverts de sueur. Et c'était à son tour de manger. Il avalait des quantités phénoménales de nourriture, demandait du rabiot que Nell se hâtait de lui servir. Ce faisant, elle ne disait pas un mot. Si elle ouvrait la bouche, son nouveau mari ne lui répondait que par des grognements. Ensuite, il allait dans le réduit, s'asseyait sur sa malle et fumait. Parfois, Tim levait les yeux de son ardoise, cessant un instant de travailler sur le problème de Mathematica que lui avait posé la veuve Smack, et voyait les yeux de Kells posés sur lui derrière un écran de fumée. Son regard avait quelque chose de déconcertant. Et Tim prit l'habitude de travailler dehors, alors même que le froid gagnait peu à peu l'arbre et que le crépuscule tombait chaque jour un peu plus tôt. Un soir, sa mère vint s'asseoir à côté de lui sur le perron et lui passa un bras autour des épaules.
« L'année prochaine, tu retourneras à l'école avec Sice Mac, Tim. Je te le promets. Il finira par se laisser convaincre. »
Tim la remercia en souriant, mais il n'était pas dupe. L'année prochaine, il travaillerait toujours à la scierie, mais il serait assez grand pour transporter des planches en plus de les empiler. Et il n'aurait plus le temps de résoudre des problèmes, car il travaillerait 5 jours par semaine et non plus 3, et peut-être même 6. L'année d'après, il travaillerait aussi au débitage, et peut-être même manierait-il la scie comme un homme. Dans quelques années, il serait devenu un homme, et le soir venu, la fatigue l'empêcherait de lire les livres de la veuve Smack, même si elle consentait encore à lui en prêter, et les chiffres bien ordonnés de la Mathematica s'enfuiraient de son esprit. Ce Tim Ross, presque adulte, ne penserait qu'à aller se coucher une fois son souper englouti. Il se mettrait à fumer la pipe et peut-être à apprécier le graffe et la bière. Sous ses yeux, le sourire de sa mère deviendrait plus pâle, son regard moins vif. Et tout cela, grâce à Bern Kells. La moisson était passée. La lune du chasseur pâlit, crut, puis devint un arc. Les premiers vents de la terre vide soufflèrent de l'ouest. Et alors qu'on commençait à croire qu'il ne viendrait plus, le collecteur de la baronnie entra dans l'arbre comme apporté par la bise, juché sur son grand cheval noir et aussi maigre que la mort. Sa lourde cape noire flottait autour de lui, ainsi que l'aile d'une chauve-souris. Sous son chapeau à large bord, aussi noir que sa cape, son visage livide ne cessait de se tourner de ci de là, repérant tantôt une clôture neuve, tantôt un troupeau grossi d'une vache ou de 3. Les villageois allaient payer la taxe, que ça leur plaise ou non, sinon leur terre serait saisie au nom de Gilead. Même en ces temps anciens, peut-être, il se murmurait que cela n'était pas juste, que les taxes étaient trop élevées, qu'Arthur Held était mort depuis belle lurette, si tant est qu'il ait jamais existé, et que l'écho de l'Alliance avait été 12 fois versé, en sang comme en argent. Peut-être attendait-on déjà la venue d'un homme de bien, qui donnerait la force de dire « Il suffit, c'est assez, le monde a changé ». Peut-être. Mais ce n'était pas pour cette année, ni même pour les suivantes. Tard dans l'après-midi, tandis que de lourds nuages boulaient dans le ciel et que les épis de maïs dans le jardin de Nell cliquetaient comme des dents branlantes, Cy Collector fit passer son grand cheval noir par le portail que le grand Ross avait monté lui-même, avec l'aide de Tim quand c'était nécessaire. D'un pas lent et solennel, le cheval s'avança jusqu'au perron. Il fit halte, secoua la tête et renacla. Debout sur le perron, le grand Kell se dut lever la tête pour fixer le visage blafard de son visiteur. Il avait ôté son chapeau et le tenait plaqué contre son torse. Ses cheveux noirs, qui commençaient à grisonner et à se clairsemer, car il aurait bientôt 40 ans et semblait déjà vieux, volaient autour de son crâne. Derrière lui, sur le seuil, se tenaient Nell et Tim. Elle avait passé un bras autour des épaules de son fils et le serrait fort, comme si elle redoutait, était-ce l'intuition d'une mère, que le collecteur le lui vole. Durant un moment, on n'entendit plus que les claquements de la cape du sinistre visiteur, sans oublier le vent qui gémissait sous les bardeaux de la maison. Puis le collecteur de la baronnie se pencha et posa sur Kells de grands yeux noirs qui semblaient ne jamais scier. Ses lèvres, vit Tim, étaient aussi rouges que celles d'une femme quand elle les peint de garance. Il sortit de sous sa cape non point un tas d'ardoises, mais un rouleau d'authentique parchemin et le déroula de tout son long. Il l'examina, l'enroula et le remit dans la poche où il l'avait trouvé. Puis il braqua ses yeux sur le grand Kells qui tiqua et baissa les siens.
« Kells, c'est cela ?»
Il avait une voix rauque et sèche qui donna aussitôt la chair de poule à Tim. Celui-ci avait déjà vu le collecteur, mais seulement de loin. Son pas avait veillé à le confier à des amis lors des visites annuelles du représentant de la baronnie. Il comprenait pourquoi maintenant. Nul doute que sa nuit serait peuplée de cauchemars.
« Kells s'y fait ?» répondit Kells.
Bien qu'il se soit efforcé à la jovialité, il ne pouvait pas empêcher sa voix de trembler. Il réussit à lever les yeux.
Bienvenue, Cy. Que vos journées soient longues. Ouais, tout ça.
Coupa le collecteur avec un geste de la main. Son regard se porta derrière Kells.
Et Ross, c'est cela? Vous étiez trois et n'êtes plus que deux, me dit-on, car le grand Ross a été victime d'un malheureux événement.
Sa voix était quasiment monocorde.
« On dirait un sourd essayant de chanter une berceuse, » songea Tim.
« C'est cela, » fit le grand Kells. Il déglutit à grand bruit, puis reprit en bredouillant.
« Lui et moi, on était dans la forêt, dans une de nos concessions, pas loin de la piste du bois de fer. On en a 4 ou 5, marquées en bonne et due forme. Et j'ai laissé notre marque parce que, pour moi, il sera toujours mon équipier. » Et on a été séparés. Puis j'ai entendu siffler, le genre de sifflement qu'on reconnaît entre mille, celui d'un dragon femelle prenant son souffle avant de « Silence !» ordonna le collecteur. « Quand on me raconte une histoire, je préfère qu'elle commence par « Il était une fois !»
Qu'elle s'ouvrit la bouche, pour demander pardon peut-être, puis se ravisa. Le collecteur s'accouda au pommeau de sa selle et le fixa des yeux.
« Tu as vendu ta maison à Gash Anderson, Cy Kells. »«
Ouais, et il a bien barguigné, mais je... »
Le visiteur ne le laissa pas finir.
« La taxe s'élève à 9 barrettes d'argent ou 1 barrette de rhodite. » Une ressource absente de ces contrées, mais l'alliance m'oblige à mentionner ce point. Une barrette pour la transaction et 8 pour la maison, où tu poses désormais ton cul et où tu trempes ta trique la nuit venue.
9 ? Octa le grand Kells.
9 ? Mais c'est quoi ?
Rétorqua le collecteur de sa voix mielleuse.
Fais attention à ce que tu dis, Bern Kells, fils de Mathias.
petit-fils de Peter le boiteux. Fais très attention, car si épais que soit ton cou, il doit être possible de l'étirer. Oui, là, je le crois. »
Le grand Kell se pâlit, sans toutefois devenir aussi blême que le collecteur.
« C'est juste, voilà ce que je voulais dire. Je vais les chercher. »
Il disparut dans la maison et en revint avec une bourse en daim. C'était celle du grand Ross, devant laquelle la mère de Tim avait pleuré naguère au début de la pleine terre. En un jour où la vie semblait plus belle, bien que le grand Ross ne soit plus de ce monde, Kell tendit la bourse à Nell, qui compta elle-même les précieuses barrettes pour les placer dans ses mains en coupe. Durant ce temps-là, le visiteur demeura immobile et muet sur son grand cheval noir. Mais lorsque le grand Kell se fit mine de descendre du perron pour lui donner son écho, presque toutes leurs économies, y compris le maigre salaire rapporté par Tim, le collecteur de l'Alliance secoua la tête.
« Reste où tu es. Je préférerais que ce soit le garçon qui me l'apporte, car il est joli, et je reconnais sur ses traits le visage de son père. Si fait, je le reconnais bien. »
Tim accepta les barrettes que lui tendait le grand Kells, comme elles étaient lourdes, et ce fut à peine s'il l'entendit murmurer
« Prends garde à ne pas les faire tomber par terre, petit dadais. »
Tim descendit les marches comme dans un rêve. Il tendit ses mains en coupe vers le collecteur, et avant qu'il ait compris ce qui lui arrivait, ce dernier l'avait agrippé par les poignets et hissé sur son cheval. Tim vit que la selle était décorée de runes argentées. Des lunes, des étoiles, des comètes et des calices débordant d'un feu glacé. En même temps, il constata que les barrettes avaient disparu. Le collecteur s'en était emparé, mais Tim n'aurait su dire comment il avait fait. Nell poussa un cri et voulut courir vers lui.
« Attrape-la et retiens-la !»
tonna le collecteur, si fort que Tim, qui était tout près de lui, faillit en être assourdi. Kell s'empoigna son épouse par les épaules et la ramena violemment en arrière. Elle trébucha et s'affala sur le perron dans une explosion de jupons.
« Maman !»
hurla Tim. Il tenta de descendre de selle, mais le collecteur le retint sans peine. Il sentait la viande rôtie au feu de bois et la sueur froide.
« Tiens-toi tranquille, jeune Tim Ross. Elle n'a rien. Regarde, elle est déjà debout. »
Puis, s'adressant à Nell, qui venait en effet de se relever,
« Ne t'excite pas, Sai. Je souhaite seulement lui parler. Oserais-je faire du mal à un futur contribuable ?»«
Si tu le touches, je te tue, espèce de démon !»
Kell se leva le poing.
« Tais-toi, femme stupide !»
Nell ne broncha pas. Elle n'avait Dieu que pour Tim, assis sur le grand cheval noir tout près du collecteur qui lui avait passé les bras autour du torse. Le collecteur sourit aux deux personnes qui lui faisaient face. L'une avait le poing toujours prêt à frapper, l'autre avec les joues inondées de larmes.
« Nell et Kells !»
s'écria-t-il.
« Le couple idéal !»
D'une pression du genou, il fit volter sa monture, qui se dirigea au pas vers le portail. Ses bras restaient serrés autour de Tim, qui sentait son haleine lui effleurer la joue. Arrivé entre les poteaux, il arrêta son cheval. Puis il murmura à l'oreille de Tim, où résonnait encore son cri de tout à l'heure.
« Que penses-tu de ton nouveau beau pas, jeune Tim ? Dis la vérité. « Mais dis-la à voix basse. Cette palabre est la nôtre, et ils n'y ont pas leur part. »
Tim ne voulait pas se retourner, ne voulait pas se rapprocher encore du visage livide du collecteur. Mais un secret lui empoisonnait le cœur. Aussi se retourna-t-il pour murmurer à l'oreille du collecteur.
« Quand il a bu, il bat ma maman. « Ah bon ? « Pourquoi n'en suis-je pas surpris ? Parce que son pas battait déjà sa maman, peut-être. Et la leçon de l'enfant devient la règle de l'homme, ça oui.
Une main gantée rabattit sur eux la lourde cape noire, comme pour en faire une couverture. Et Tim sentit l'autre main gantée glisser un petit objet dur dans la poche de sa culotte.
« Un cadeau pour toi, jeune Tim. C'est une clé. Sais-tu ce qui la rend exceptionnelle ?»
Tim fit non de la tête.
« C'est une clé magique. Elle ouvre toutes choses, mais une seule fois. Ensuite, elle te sera aussi inutile qu'un tas de poussière, alors choisis avec soin ce que tu veux ouvrir. »
Il éclata de rire, comme si jamais il n'avait entendu saillie plus drôle. Son haleine puante retourna l'estomac de Tim. Il déglutit.
« Je n'ai rien à ouvrir. Il n'y a pas de serrure à l'arbre, hormis celle du saloon et de la prison. Oh ! Je crois que tu en connais une autre. Pas vrai ?»
Tim fixa les yeux noirs du collecteur, qui luisait de malice et ne dit rien. Mais l'autre opina comme s'il avait parlé.
« Que racontes-tu à mon fils ? »
hurla Nell depuis le perron.
« Ne verse pas du poison dans ses oreilles, démon !»«
Ne fais pas attention à elle, jeune Tim. Elle ne tardera pas à savoir. Elle ne verra pas grand-chose, mais elle en saura beaucoup. »
Il ricana. Ses dents étaient énormes et très blanches.
« Tiens, une énigme. Peux-tu la résoudre ? Non ? Peu importe, la réponse viendra en son temps. »
« Il l'ouvre parfois, »
dit Tim d'une voix de somnambule.
« Il en sort son affûtoir pour aiguiser sa hache, puis il la referme. Le soir, il s'assied dessus pour fumer sa pipe, comme si c'était un fauteuil. »
Le collecteur ne lui demanda pas de quoi il parlait.
« Et est-ce qu'il la caresse chaque fois qu'il passe près d'elle, jeune Tim ?» Comme un homme caresserait son vieux chien fidèle ?
C'était la vérité, mais Tim resta muet. Il n'avait pas besoin de parler. Apparemment, il n'avait aucun secret pour l'esprit qui tic-taquait derrière cette triste figure blême. Aucun.
Il joue avec moi,
se dit-il.
Je ne suis qu'un divertissement pour lui, en ce jour sinistre, dans ce village sinistre qu'il aura tôt fait de quitter. Mais il casse ses jouets. Il suffit de le voir sourire pour le comprendre.
Demain et après-demain, je camperai au bord de la piste du bois de fer, à une ou deux roues d'ici,
dit le collecteur de sa voix sourde et éraillée.
« La route a été longue et je suis fatigué d'entendre tous ces bavardages. Dans la forêt, il y a des wurtes, des wervels et des serpents, mais ils ne sont pas bavards. »«
Et toi, tu n'es jamais fatigué ?»
répliqua mentalement Tim.
« Jamais.
Viens me voir si tu en as envie. »
Il ne ricana pas cette fois-ci, mais gloussa comme une petite fille espiègle.
« Et si tu l'oses, bien entendu. Mais viens la nuit, car le misérable que je suis aime faire la sieste dans la journée quand il le peut. Viens, ou alors reste ici. Cela m'est égal. Hop !»
Cette injonction s'adressait au cheval, qui retourna d'un pas lent vers le perron, sur lequel Nell se tordait les mains pendant que le grand Kell se la fixait d'un œil mauvais. Les doigts filiformes mais robustes du collecteur enserrèrent à nouveau les poignets de Tim comme une paire de menottes et le soulevèrent. L'instant d'après, il était par terre, levant des yeux ébaubis vers le visage livide qui souriait de ses lèvres écarlates. La clé dans sa poche semblait brûlante. Un coup de tonnerre retentit dans le ciel et il commença à pleuvoir.
« La baronnie vous remercie. »
Le collecteur porta un doigt ganté à son chapeau à large bord. Puis il fit volter son cheval noir et disparut dans la pluie. La dernière chose que vit Tim était fort étrange. Lorsque le vent gonfla la lourde cape noire, il aperçut un gros objet attaché au gunas du collecteur. On aurait dit une bassine. Le grand Kell se descendit les marches d'un pas vif, agrippa Tim par les épaules et se mit à le secouer. La pluie collait ses rares cheveux à ses tempes et goûtait de sa barbe. Celle-ci était noire lorsqu'il avait bouclé la corde avec Nell, mais elle était aujourd'hui striée de gris.
« Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a parlé de moi? Quel mensonge t'a-t-il raconté? Parle !»
Tim était incapable de répondre. Sa tête remuait si fort qu'il en avait les dents qui claquaient. Nell les rejoignit en courant.
« Arrête! Laisse-le tranquille! Tu m'as promis que jamais... »«
Te mêle pas de sa femme !» dit-il en lui décochant un coup de poing.
La mama de Tim tomba sur l'allée, où la pluie recouvrait déjà les traces laissées par le cheval du collecteur.
« Espèce de brute !»
hurla Tim.
« T'as pas le droit de frapper ma mama !»
Il ne sentit rien lorsque Kells le gratifia à son tour d'un coup de poing, mais une lumière aveuglante envahit son champ visuel. Lorsqu'elle finit par s'estomper, il se retrouva gisant dans la boue à côté de sa mère. Il était étourdi, ses oreilles bourdonnées et la clé dans sa poche brûlée comme une braise.
« Nice vous emporte tous les deux !» dit Kells en s'éloignant sous la pluie.
Une fois passé le portail, il tourna à droite, prenant la direction de la grande rue de l'arbre. La direction du saloon, Tim en était sûr. Il n'avait pas touché à l'alcool durant toute la terre vide, pour ce qu'en savait le garçon. Mais ce soir, il allait se rattraper. À en juger par le visage chagriné de sa mère, le front mouillé de pluie, les cheveux collés à sa joue rougie par le coup de poing, elle le savait aussi. Tim lui passa un bras autour de la taille. Elle lui en passa un autour des épaules. Se soutenant l'un l'autre, ils gagnèrent lentement le perron, puis l'intérieur de la maison. Elle ne s'assit pas, elle s'effondra sur la chaise de la cuisine. Tim attrapa la cruche, versa de l'eau fraîche dans la cuvette, humecta un chiffon propre et le posa doucement sur sa pommette qui commençait à enfler. Elle l'y maintint pressé un moment, puis le lui tendit sans mot dire. Il l'appliqua sur son visage pour lui faire plaisir. La fraîcheur apaisa un peu sa douleur lancinante.
« C'est un joli tableau, pas vrai ? »
dit-elle sur un ton de jovialité forcée.
« L'épouse assommée, l'enfant martyr et le mari poivreau. »
Comme il ne savait pas quoi répondre à cela, Tim ne dit rien. Nell baissa la tête et, le menton calé sur sa main, fixa la table devant elle.
« Nous voilà mal partis, Tim. J'étais terrifié, je ne savais plus quoi faire, mais ce n'est pas une excuse. Nous aurions mieux fait de choisir le vagabondage, je crois bien. »
Renoncer à leur place en ce monde, à leur lopin de terre, la perte de la hache et de la pièce porte-bonheur ne suffisait donc pas. Toutefois, elle avait raison. Ils étaient mal partis.
« Mais j'ai une clé, »
songea Tim, et il glissa les doigts au fond de sa poche pour la toucher.
« Où est-il allé ?»
demanda Nell, et il comprit au ton de sa voix qu'elle ne parlait pas de Bern Kells.
« Sur la piste du bois de fer, à une ou deux roues d'ici, il m'attend. » « Je ne sais pas, maman. »
Pour autant qu'il s'en souvienne, c'était la première fois qu'il lui mentait.
« Mais on sait où est passé Bern, pas vrai ?»
Elle tenta de rire, mais grimaça de douleur.
« Il avait promis à Millie de Red House de ne plus jamais boire, et il m'a fait la même promesse. Mais c'est un faible. Ou alors, serait-ce moi qui le suis ? L'ai-je poussé à boire, à ton avis ?»« Non, maman. »
Mais Tim se demanda si elle n'était pas dans le vrai. Pas de la façon dont elle l'entendait, en le traitant comme une mégère, en tenant mal sa maison, en lui refusant de faire ce que les hommes et les femmes font dans leur lit la nuit venue. Mais d'une autre manière encore indéfinie. Il y avait un mystère là-dessous, et il se demandait si la clé dans sa poche ne l'aiderait pas à le résoudre. Pour se retenir de la toucher une nouvelle fois, il se leva et se dirigea vers le garde-manger.
T'as envie de quelque chose? Des œufs, peut-être. Je vais te les préparer. »
Elle eut un pauvre sourire.
« Grand merci, mon fils, mais je n'ai pas faim. Je crois que je vais m'allonger un peu. »
Elle se leva en chancelant. Tim l'aida à gagner sa chambre. Puis il fit semblant de s'intéresser à ce qui se passait dehors, pendant qu'elle ôtait sa robe maculée de boue pour enfiler sa chemise de nuit. Lorsqu'il se retourna, elle s'était glissée entre les draps. Elle tapota ceci à côté d'elle, comme elle le faisait parfois quand il était tout petit. En ce temps-là, son père aurait été couché à ses côtés, vêtu de sa longue chemise de bûcheron et fumant une cigarette qu'il venait de rouler.
« Je ne peux pas le chasser, » dit-elle. « Je le voudrais bien, mais à présent que la corde est bouclée, cette place est la sienne bien plus que la mienne. La loi est cruelle pour les femmes. Jamais je n'aurais pensé cela avant, mais à présent... »
Ses yeux devenaient vitreux, son regard lointain. Elle ne tarderait pas à s'endormir et c'était une bonne chose. Il l'embrassa sur sa joue indemne et fit mine de partir, mais elle le retint.
« Que t'a dit le collecteur ? Il m'a demandé si j'aimais mon nouveau beau pas. Je ne sais plus ce que je lui ai répondu. J'avais très peur. Moi aussi, j'ai eu peur quand il a rabattu sa cape sur toi. Je croyais qu'il voulait t'emporter comme le roi rouge dans le vieux conte. »
Elle ferma les yeux. Tim crut qu'elle s'était endormie, mais elle les rouvrit très lentement. On y lisait maintenant quelque chose qui était peut-être de l'horreur.
Je me rappelle le jour où il est venu voir mon pas, alors que j'étais toute petite et à peine propre. Le cheval noir, les gants et la cape noire, la selle avec des sigleux d'argent. Son visage blafard m'a donné des cauchemars. Il est si allongé. Et tu sais quoi, Tim ?
Il secoua lentement la tête.
Il porte la même bassine d'argent attachée derrière lui, car je l'avais aperçu alors. Cela fait plus de 20 ans. Si fait. 20 ans et une poignée d'années. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas vieilli d'une journée.
Ses yeux se refermèrent. Cette fois-ci, ils restèrent clos et Tim sortit de la chambre à pas de loup.